aujourd'hui, on célèbre la fête de saint Antoine le Grand, qu'on appelle le père des moines, qui est entre autres le protecteur du monastère auquel plusieurs d'entre vous sont habitués, qui a été fondé par le père Placide dans le Vercors. Et d'ailleurs, j'ai repris dans ce que je vais vous dire quelques mots d'ailleurs qui viennent du père Placide, de bienheureuse mémoire. Ce monastère dans le Vercors renferme une relique de saint Antoine qui faisait partie d'un lot, on peut dire plus important, de reliques de saint Antoine qui avait été rapporté il y a très très longtemps, puisqu'on dit que c'était le fils d'un des barons de Charlemagne qui était revenu d'Égypte et qui avait rapporté quelques reliques de saint Antoine, et qui a fondé d'ailleurs c'est un nommé Guillaume, et qui a fondé le monastère de Saint-Guillaume-le-Désert, je ne sais pas si vous connaissez, qui est dans l'Hérault. Le monastère n'existe plus, mais il y a encore l'église il y a un cloître, si je me souviens bien. C'est un très bel endroit. Et les reliques de Saint-Antoine, maintenant, à part celle qui est au monastère que j'appelle du Père Placide, pour bien distinguer les choses, à part celle-là, il y en a encore à l'abbaye Saint-Antoine, qui est, elle, de l'autre côté de l'Isère, pratiquement en face. Et puis, il y en a à l'abbaye abbaye de Montmajour, à côté d'Arles. Je crois d'ailleurs que la relique que possède le monastère vient de Montmajour. Voilà, saint Antoine est bien connu grâce à sa vie qui a été écrite par saint Athanase d'Alexandrie, qui était son contemporain pratiquement, et ils se connaissaient bien, ils se connaissaient bien, ça date du 4e siècle. Saint Antoine a eu une vie très longue, il a vécu de l'ordre de 100 ans, même peut-être 102 ou 103, et voilà, dans cette Égypte, il s'était finalement installé du côté de la mer Rouge, où il y a maintenant un monastère qui est très 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 actif, où il y a beaucoup de moines. C'est un très bel endroit, voilà. Et donc on a beaucoup de grandes connaissances, parce que saint Athanase était un homme d'une haute culture. Et il avait consacré une bonne partie de ses... Saint Athanase, c'était le patriarche d'Alexandrie, l'archevêque d'Alexandrie, mais il avait de temps en temps, et c'était un homme avec une forte personnalité, et de temps en temps, il n'hésitait pas à dire des choses qui n'allaient pas dans le sens de la politique du moment, et du coup il s'est trouvé exilé à plusieurs reprises, et voilà, lors d'un de ses exils il en a profité pour écrire cette vie de saint Athanase. Qu'est-ce que je raconte? Cette vie de saint Antoine, voilà, saint Athanase écrit la vie de saint Antoine. Avant Antoine, on concevait la vocation chrétienne surtout sous la forme du martyr. Et durant les trois premiers siècles, les persécutions étaient toujours prêtes à tout moment à ressurgir. Et à la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle, il y avait même eu une redoutable et cruelle persécution qui s'était étendue pratiquement à tout l'Empire romain. Et comme d'autres, saint Antoine avait dans son cœur la soif du martyr. Mais le Seigneur le destinait à un autre genre de vie, que saint Athanase appelle le martyr quotidien de la conscience. C'est intéressant ça. De quoi s'agit-il? Saint Athanase rapporte que saint Antoine, jeune homme, entendit un jour lire à l'église ces paroles du Seigneur: « Si tu veux être parfait, vends tous tes biens, donne-en le prix aux pauvres et suis-moi. » Cet appel à la perfection, Antoine l'a immédiatement pris pour lui Et s'il y a répondu si spontanément, si généreusement, c'est que l'amour du Seigneur brûlait déjà dans son cœur comme un feu. Si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux aller jusqu'au bout de ta vocation chrétienne qui consiste à développer pleinement la grâce reçue au baptême, alors oui, dépouille-toi. Dépouille-toi et suis-moi. Et c'est là le fondement du martyr non sanglant qui se présentait à saint Antoine. La conviction la plus profonde de saint Antoine, c'était que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que cette image de Dieu en lui, ternie par le péché de nos premiers parents, est ravivée en nous par le baptême. Elle retrouve sa force, son rayonnement par le baptême. Et quel est l'effet de cette image de Dieu dans nos cœurs? On peut dire que c'est tout ce qui le rend conforme à Dieu et en premier lieu l'amour. Car Dieu est amour, amour d'abord au sein de la Sainte Trinité et aussi amour des hommes qui sont créés par amour. Saint Antoine était profondément conscient que l'amour du Christ prime sur toute chose. Et en conséquence, puisque nous sommes à l'image de Dieu, il ressentait un attrait pour toutes les vertus, toutes les perfections qui éclatent avant tout dans le Christ et qui peuvent se développer en nous par la grâce du Saint-Esprit pour engendrer la vie du Christ en nous, la présence du Christ en nous. À ce moment-là, on ne s'enthousiasme pas pour le Christ d'une façon superficielle, d'une façon extérieure, mais notre cœur est saisi, il est épris profondément par cet amour de toutes les perfections qui sont dans le Christ. Alors le Christ devient vivant en nous. Et c'est certainement cet amour du Christ intérieur et profond qui animait le cœur de saint Antoine et animait toute sa vie dans le Christ. Alors, nous nous posons cette question évidemment, comment éveiller en nous cet amour du Christ? Comment parvenir à cet attrait du Christ, à ce goût, à cet enthousiasme intérieur qui n'est pas superficiel, mais qui se fonde sur l'Esprit Saint et l'Évangile. Isaac le Syrien, qui est un père de l'Église du VIe siècle, dit que les dons de Dieu viennent d'eux-mêmes quand le cœur est libre et sans souillure. Et c'est pour cela que les pères disent toujours que ce qu'il faut avant tout, c'est purifier son cœur, c'est lutter contre les pensées, contre les tentations, car s'il y a en nous, secrètement, l'amour du Christ, de façon encore parfois embryonnaire, il y a aussi, et c'est bien plus sensible, d'autres tendances, des tendances qui nous portent vers les choses terrestres, qui nous portent à satisfaire le besoin d'infini qui est en nous, mais par le biais des réalités matérielles et finies. Et nous jetons alors dans des recherches vaines et surtout une inquiétude perpétuelle que rien ne peut satisfaire, que rien ne peut rassasier. Rien de terrestre, rien d'extérieur, je veux dire. Les pères parlent finalement très peu de la contemplation, de l'expérience de Dieu. Cela filtre parfois dans leurs écrits, mais de manière sobre et discrète, et ils ne donnent pas de méthode pour y parvenir. Il n'y a pas de procédé pour parvenir à l'expérience de Dieu, car les dons de Dieu viennent d'eux-mêmes quand notre cœur est libre et sans souillure, disait Isaac. C'est pourquoi les pères ont toujours insisté en premier lieu sur le combat spirituel, c'est-à-dire sur la lutte contre les pensées, les mauvaises inspirations intérieures, tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui relève finalement de notre égocentrisme. J'avais noté égoïsme, mais c'est plus que ça, c'est notre tendance à tout ramener à nous, c'est-à-dire le contraire du dépouillement. Et pour cela, il faut lutter sans relâche à la force des poignets, c'est-à-dire de la volonté. Et c'est le seul outil dont saint Antoine a eu l'expérience. Dans le récit des premières tentations que saint Antoine a connues au désert, saint Athanase rapporte qu'il se sentait vraiment seul. Il sentait qu'il devait lutter contre les tentations, les sollicitations, les pensées que le diable semait en lui. Il avait l'impression de lutter tout seul, avec toute la fragilité de son être. Et s'adressant au Seigneur dans sa prière, il lui disait « Pourquoi, Seigneur, m'as-tu laissé seul dans ce combat ?» Et il entendit une fois le Seigneur lui répondre « Tu n'es pas seul, je suis présent avec toi, mais je ne me manifeste pas pour que tu puisses vraiment engager pleinement ta liberté et manifester ta résolution, ton désir de fidélité à ne dépendre que de Dieu. Il n'y a pas d'autre méthode, disait le Père Placide, en accord avec la tradition des Pères, pour parvenir à la découverte de Dieu dans notre cœur. Que cette lutte, ce combat qu'il faut mener avec l'impression d'être tout seul, mais il faut savoir crier vers le Seigneur, l'appeler à notre secours. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. C'est cela qui doit être le cri profond de notre cœur, et c'est ainsi que cet amour du Christ deviendra d'autant plus profond, mais d'autant plus vivant dans notre cœur. Ceci ne s'adresse pas qu'aux moines, car tout chrétien doit s'efforcer de progresser, de développer en lui l'amour du Seigneur. C'est l'appel adressé à tout chrétien. Et c'est cela que saint Antoine nous enseigne. C'est cela que nous devons demander au Christ en priant sans cesse la prière du cœur. Au Christ, qui est toujours présent en nous, même si nous ne le ressentons pas, soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.